Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Forest, Sébastien Banovini et François-Louis-Marie. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec la deuxième journée du Rugby Championship et la Coupe du Monde féminine, du football avec la deuxième journée de Ligue 1 et du tennis avec les premiers coups de raquette à l'US Open. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Pierre Forest, on va commencer par vous et avec le rugby. C'était la deuxième journée du Rugby Championship ce week-end et les choses se sont rééquilibrées par rapport à la semaine dernière.
Alors, se sont rééquilibrés puisqu'on a eu la surprise le week-end dernier d'avoir cette victoire des Wallabies, des Australiens, donc en Afrique du Sud. Et cette année, ben, on a droit à chaque fois des surprises puisque ce sont maintenant les Argentins qui ont gagné et ont battu les Blacks qui étaient chez eux, hein, puisque le principe des quatre nations, c'est un premier week-end où on dispute les matchs aller-retour. Et donc, alors qu'auparavant, il y avait des matchs aller, puis après, il y avait des matchs retour chez l'adversaire. Donc là, c'est une nouvelle formule qui limite aussi, un petit peu les déplacements. Hein, donc voilà. Donc la surprise, c'est vraiment cette victoire des Argentins. Mais ils avaient laissé entendre déjà, on l'avait vu le week-end dernier, où ils étaient bien revenus en deuxième mi-temps, notamment sur les Blacks. Et là, ben, ça s'est concrétisé. Ils ont été rigoureux. Ils ont fait faire beaucoup de fautes. On n'a jamais vu des All Blacks faire autant de fautes.
Et ça a beaucoup d'indiscipline côté des Blacks.
Beaucoup d'indiscipline,
hein.
Ouais. Alors, comment expliquer ça ? Ben, évidemment, il y a le fait que les All Blacks, ils ont un nouvel encadrement avec un nouvel entraîneur, un nouveau jeu qu'ils essaient de mettre en place. Mais manque de peau, ça tombe juste l'année où il y a cette confrontation. Et j'ai l'impression que les quatre équipes sont venues à un même niveau maintenant. L'Argentine, il ne faut pas oublier que la plupart des Argentins jouent en top 14. Donc, que ce soit à Toulouse ou à l'UBB ou dans n'importe quel club de top 14. Donc, c'est pas trop une surprise. C'est simplement à signaler, c'est la première victoire des Pumas chez eux. Ils avaient déjà battu les All Blacks en Nouvelle-Zélande, mais jamais à domicile. Donc, c'est un bon point pour les Argentins.
Alors, on parlait de l'indiscipline des Néo-Zélandais, notamment avec trois cartons jaunes de deux quasiment coup sur coup qui ont fait qu'ils ont joué 8 minutes à 13.
Oui, exactement. Ouais, ça paye au haut niveau. Ça paye, mais on n'a pas reconnu Et en fait, pourquoi ils font des fautes ? Parce qu'ils ont été dominés. Ils ont été largement dominés devant. Les Argentins, ils ont joué un jeu très, très sérieux, très compact devant, et qui a fait faire des fautes aux Blacks.
Il y a un autre facteur qu'on a vu et qui est assez inhabituel pour les Blacks, c'est le jeu au pied, ou notamment le buteur. On a vu Boden Barrett louper plusieurs transformations.
Oui, ben c'est un petit peu la tendance quand on est dominé, quand on n'est pas très serein non plus devant. Donc évidemment, ça joue beaucoup. Mais ce n'est pas tant les pénalités qui... Évidemment, hein, on était habitué avec Boden Barrett d'avoir du 100%, mais là, ce n'est pas tant les pénalités, c'est surtout sur l'ensemble du match. Les Argentins, bizarrement, je suis tenté de dire, ils ont été très rigoureux. Ils savaient où était le point faible de l'adversaire. Donc, ils ont mis beaucoup de passion dans ce temps fort qu'ils ont mis. Et la preuve, cette victoire.
Alors, on va revenir sur l'autre match maintenant, entre les Springboks sud-africains et les Australiens. Les Boks ont rééquilibré un peu la balance en gagnant 30 à 22 ce week-end.
Oui, ça avait été une surprise d'ailleurs, la victoire des Wallabies le week-end dernier en Afrique du Sud. Et là, ils ont remis les compteurs à zéro. C'est vrai qu'ils ont fait 9 changements, me semble-t-il. Hein. Ils ont viré 9 joueurs titulaires du premier test. Bon, ils ont quand même du monde. Hein,
il y a un réservoir, oui.
Ils ont un réservoir de fous furieux là-dedans. Et donc, ils ont rééquilibré. Mais néanmoins, quand on regarde le score, c'est encore un score très serré. Ils ont gagné 30 à 22.
C'est ça.
Les Wallabies, c'est vraiment l'équipe de ce premier tour. Enfin, pour moi, c'est l'équipe qui surprend le plus et qui arrive à trouver des solutions aux problèmes posés par l'adversaire, et je crois qu'ils s'entendent très bien avec, évidemment, cette équipe-là.
On sent effectivement un renouveau du rugby australien depuis quelques matchs, même si la tournée contre les Lions britanniques n'avait pas été complètement aboutie.
C'est un renouveau, oui, on le constate à chaque fois, mais il faut aussi dire que le rugby à 15 en Australie, ce n'est pas le sport le plus pratiqué. Ils sont loin derrière évidemment l'Australian Rules, le jeu à 13, etc. Donc ils sont vraiment très très loin, mais bon, avec le peu de joueurs qu'ils ont. Et puis ce nouvel entraîneur, Joe Smith, hein, qui est, pour le rappeler, un néo-zélandais, un ancien All Black, et qui vraiment prépare la prochaine Coupe du Monde. C'est chez eux, hein, la prochaine Coupe du Monde. Donc je crois qu'il y a un bon défi qui sont lancés les Australiens de pouvoir gagner pour la deuxième fois la Coupe du Monde chez eux.
Alors, au classement, c'est assez simple. Tout le monde a gagné une fois, tout le monde a perdu une fois. C'est les Blacks qui sont devant au gré du bonus défensif arraché ce week-end.
Voilà,
la prochaine journée sera donc le samedi 6 septembre.
Alors, c'est les Sud-Africains qui se déplacent en Nouvelle-Zélande.
Exactement.
Donc là, on aura deux tests match deux week-ends de suite qui vont être très intéressants. Et les Argentins, ils se déplacent en Australie. Donc là aussi,
deux week-ends consécutifs également. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Vous parliez de Coupe du Monde, on va parler de Coupe du Monde, mais féminine cette fois-ci, avec la belle entrée en matière de l'équipe de France face à l'Italie.
Oui, même si ça a été un peu poussif en première mi-temps, je crois que le score il n'était pas très, très élevé, mais c'est un début. Tout le monde pense que l'équipe de France va s'améliorer, c'est une Coupe du Monde. Il y a quatre poules de quatre équipes, il y a six équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde. Et puis, l'objectif pour l'équipe de France, c'est de sortir en tête, de finir première.
Cette
pour éviter, entre guillemets, normalement, sur la poule C, je crois, me semble-t-il, les Néo-Zélandaises, les Black Ferns. C'est de rencontrer le deuxième de la poule C, qui on l'espère, ce ne sera pas les Black Ferns. Qui pourrait être l'Irlande, et puis peut-être se qualifier pour les demi-finales. Avec l'objectif, c'est de ne pas échouer en demi-finale comme les deux précédentes éditions, mais donc au moins d'aller en finale. Sachant que ça sera très très difficile. On a deux favorites, les Néo-Zélandaises évidemment, puisqu'ils sont championnes du monde deux années de suite déjà. Et puis l'Angleterre qui, d'abord, a l'avantage du terrain, elle joue chez elle. Et puis ils ont montré qu'ils ont un gros effectif, un gros paquet d'avant avec un rugby très physique, que ce soit en attaque ou en défense. Donc voilà un peu les deux favorites, mais on espère que la France va s'améliorer au fur et à mesure des matchs de classement et puis va enfin arriver en finale. Un critère sur lequel on peut s'appuyer, c'est qu'au dernier tournoi des Six Nations féminines, la France avait perdu de quelques points seulement contre l'Angleterre, qui était la grande favorite. Donc, il y a eu malheureusement ce match d'entraînement il y a 15 jours à peu près, où ils ont pris 40 points par les mêmes Anglaises. Mais bon, on va mettre ça sur le côté des matchs d'entraînement.
Un match de préparation.
Mais le match des tournois destination était peut-être une référence sur laquelle ils vont beaucoup s'appuyer. Ouais.
Bon, on va suivre notre équipe de France avec beaucoup d'intérêt, en espérant qu'effectivement, elle puisse aller chercher, pourquoi pas, le titre.
Alors la différence, une des grandes différences aussi de cette équipe de France par rapport aux deux équipes favorites, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il n'y a pas de jeu professionnalisme chez les féminines en France. Ce sont tous, la plupart, il y a...
Les amateurs.
Je crois qu'il y a, sur les volants de licenciés FFR, il y a 50 000 licenciés féminines, à peine. Et l'objectif de la Fédération française, c'est d'atteindre le double, évidemment, d'avoir 100 000 licenciés féminines. Mais pour le moment, il n'y a pas de professionnalisme. Donc c'est soit la plupart sont étudiantes, ou soit d'autres filles ou femmes qui ont un boulot à côté. Donc on revient un peu à l'histoire du rugby il y a 50 ans. Donc c'est vraiment amateur, quoi, amatrice. Quoi.
Bon, eh bien voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On espère que notre équipe de France va aller le plus loin possible. On va passer au football, messieurs. François Lumari avec vous. C'était la deuxième journée de Ligue 1. On va parler de votre club de cœur. On va commencer par Marseille, qui s'est un peu rassuré en battant le promu, le Paris FC.
Rassuré sur le plan sportif, mais en interne, les choses ne sont pas réglées. Mais bon, Marseille, ça a toujours été ça. L'essentiel, c'est que Marseille se retrouve dans les trois premiers en fin de saison pour une qualification
en Ligue des Champions.
Parce que c'est surtout sur le plan financier. Donc, sinon. Au bout de deux journées, il y a quand même quelques enseignements. Hein. Déjà vers le haut, bien sûr, ton équipe de cœur, Paris, parce que au bout de deux semaines d'entraînement, ils ne sont pas encore prêts physiquement. Et pourtant, ils ont gagné trois matchs dans la Supercoupe. Ils gagnent les matchs. Alors, allez voir quand ils vont commencer à bien tourner, à être en forme. Et puis, Strasbourg qui me surprend. L'année dernière, ils ont fini difficilement. Et là, on voit qu'ils sont encore là. Et ils ont un bon entraîneur. Monaco, Rennes qui au ce début de saison je pensais qu'ils allaient peut-être rivaliser avec Paris mais je crois que non, ils vont lutter pour les deuxième, troisième places. Et puis à Lyon qui a connu aussi comme Marseille à l'intersaison des quelques petites méandres internes et qui s'en sort pas mal pour ce début de saison. Puis enfin, les deux équipes qui sont montées là, de Ligue 2, Metz et le Paris FC, ben, c'est déjà difficile pour eux. Je ne te parle même pas de Nantes. Ils vont certainement rappeler encore Antoine Camboiré d'ici quelques mois. Hein, parce que
je ne suis pas sûr qu'il y aille. Hein.
parce qu'ils sont mal partis. Hein. Mmh. Et on voit déjà un petit écart qui se creuse déjà avec les équipes de bas de tableau.
Bon, alors effectivement, on va redécomposer tout ça, mais on peut revenir sur la victoire de Lille qui s'est imposée face à Monaco. On attendait un peu mieux de Monaco. On s'était dit que peut-être Monaco pouvait être l'équipe qui pouvait concurrencer le PSG. Alors ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas, mais on attendait plus de régularité en ce début de saison. Ils se sont fait surprendre ce matin par Lille avec un certain Olivier Giroud qui en est à 2 buts en 2 matchs.
Eh bien, ça sera mon. Ça, je te le dis déjà, ça sera mon mot de la fin avec Giroud. Oui, Monaco me déçoit un peu, mais en fait, pas tant que ça. Parce qu'ils avaient une bonne équipe avec l'année dernière. Et comme d'habitude, pour des raisons financières, ils ont vendu quand même de bons joueurs.
Moins que d'habitude.
Ils ont vendu deux milieux de terrain qui tenaient bien la baraque.
Alors, il pourrait encore y avoir des départs. Hein. Le mercato est jusqu'au 31 août 20h, puisqu'il n'est pas jusqu'à minuit cette année.
Oui, le mercato, c'est jusqu'à la fin du mois. Et si Monaco est déjà à un match gagné, un match perdu, je ne te dis pas quand la Coupe d'Europe va commencer. Hein, parce que là, il faut avoir un effectif vraiment pléthorique pour pouvoir tenir toute la saison.
Donc, on va voir.
Pogba, il ne joue pas.
Hein. Ben voilà. C'est fou. Tu as 3 équipes, Marseille et Monaco. Quand la Coupe d'Europe va commencer, ils ont un effectif déjà amoindri. Alors que Paris va encore se renforcer pendant ce mercato. Alors,
ou pas.
Si, ils vont se renforcer. Il faut au moins un joueur.
L'instant, il n'y a pas d'arrivée prévue au PSG, qui a fait le job donc, contre Angers, avec une grosse domination, un bloc très très bas des Angevins. Mais le Paris a fait sauter le verrou quand même.
Ça me surprend des équipes. Hein. Les équipes jouent vraiment très bas. Et tu regardes Lucas, il n'a rien à faire.
Chevalier,
il n'a rien à faire. Et les équipes continuent à jouer très très bas. Alors que Paris n'aime pas les équipes qui vont les chercher beaucoup plus haut. Perdre pour perdre, en fait, les équipes ne veulent pas prendre de carton et jouent avec un bloc très bas. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Un bloc médian serait le mieux contre une équipe, contre le Paris Saint-Germain.
Surtout en début de saison où justement, on sent qu'ils ne sont pas encore complètement prêts comme ils l'étaient
exactement,
à la fin de saison dernière.
Exactement, c'est maintenant qu'il faut les prendre avec un bloc médian. Si on les prend avec un bloc bas, avec les individualités qu'ils ont, à un moment donné, le verrou, il explose. Hein.
Voilà, une possession à 82%, je crois, de possession. Donc,
Angers n'a pas fait un tir au but. Voilà,
c'est ça.
Angers n'a pas fait un tir au but.
Il loupe un pénalty en plus, Dembélé.
Ouais, Dembélé rate un pénalty.
Donc quand Paris va commencer à bien tourner, à être en forme physique, à commencer à presser très haut, ces équipes-là ne vont pas exister.
Ah oui, ça va être très compliqué pour eux. Voilà.
On a aussi la première victoire de Nice cette saison. C'était important parce qu'ils avaient perdu 2 fois contre Benfica, donc en accession au barrage de la Ligue des Champions. Ils avaient perdu leur première journée de championnat. Ils avaient besoin de se rassurer un peu. Ils vont jouer quand même la Coupe d'Europe, même si c'est l'Europa League.
Mais pour moi, il était important pour eux de gagner ce match-là parce que ça aurait été déjà la crise en interne. Et avec un bon entraîneur, ils essaient de mettre les moyens. C'est pas facile, mais je crois que là ils sont bien partis. Ils sont bien partis. J'espère que ils vont continuer sur le lancer. Sinon, ils vont aussi exploser hein, quand vous jouez sur les deux tableaux, surtout en Coupe d'Europe et en championnat. Ça devient très difficile.
Ou alors, ils vont faire comme un certain nombre de clubs français ces dernières années, brader la Coupe d'Europe pour en faire des matchs de sélection ou de pas jouer vraiment la Coupe d'Europe à fond. Quoi.
Oui, parce qu'en fait, il faut jouer les 3 ou 4 premières places du championnat, ce qui est plus important, pour avoir une rentrée d'argent en fin d'année. Donc, on laisse une fois qu'on est qualifié, on laisse la Coupe d'Europe de côté et puis on essaye, dans le championnat, de finir 3e ou 4e.
Ce qui n'est pas bon pour l'indice UEFA de la France.
Pas du tout, parce que les clubs vont se réduire, autant pour la Ligue des Champions que pour les Coupes UEFA.
On a Lorient aussi qui s'est imposé dans le derby breton face à Rennes. Alors, des Rennais qui ont joué à 9 pendant quasiment 80 minutes.
C'est le revers du bâton, hein, on nous l'avait fait. Ils l'avaient fait où ils étaient euphoriques lors du match contre Marseille. Ben, ce sont
ils avaient déjà joué à 10 contre 11, donc c'est quand même le 3e carton rouge en 2 journées.
Oui, c'est sur le fait de jeu. Hein, ça, là, il faut que se posent des problèmes. Soit ils sont trop agressifs, soit ils ont trop envie. N'empêche que c'est surprenant. Face à Lorient, ça me surprend quand même. Rennes voulait
jouer. Lorient a promu, hein, rappelez.
Oui, Lorient a promu. Derby. Et Rennes veut jouer les premières places. Donc c'est quand même surprenant de leur part.
Il y aurait un problème de discipline à régler dans l'équipe d'Habib Bey.
Peut-être de discipline, mais surtout de gestion des émotions, parce que j'ai vu le premier carton, il est un peu trop appuyé. Donc il faut gérer ses émotions. Peut-être qu'il y a trop de motivation, une surmotivation, quand vous êtes surmotivé, vous oubliez qu'il y a des gestes à ne pas faire. Donc il faut pouvoir gérer les émotions des joueurs. On peut prendre un psychologue, on peut prendre ce qu'on veut. À l'heure actuelle, il y a tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut que chaque joueur puisse se gérer lui-même déjà.
Vous l'avez dit tout à l'heure, donc en haut du classement, on retrouve Lyon, Toulouse, Paris et Strasbourg qui sont en tête avec 6 points et 2 victoires. Et en bas du classement, on a Nantes, Le Havre, le Paris FC et Metz, les deux autres promus, toujours à 0 points. Et pour qui on pressent que ça peut être rapidement compliqué.
C'est déjà compliqué. Pourtant, Metz avait fait une bonne saison l'année dernière en Ligue 2. Ça promettait. Même en Coupe de France, ils étaient allés assez loin. Mais le plus inquiétant, c'est Nantes. Hein. Chaque année, à flirter avec les barrages, à un moment donné, ça va craquer. Hein.
Alors, Nantes reçoit Auxerre la prochaine journée, le week-end prochain. Le Paris FC va jouer Metz. Donc, on peut parier qu'il y en a un des deux qui va gagner, à moins qu'il nous fasse un match nul.
Mais c'est déjà parti pour les points importants au début de saison.
Hein. C'est ça, les fameux matchs à 6 points.
Mais exactement, dès le début de saison.
Et puis, il y a l'Olympico entre Lyon et Marseille, dès le week-end prochain, à Lyon, à Gerland.
Je crée pour notre équipe de Marseille, Pierre. Je te dis, là, on n'est pas au mieux. On n'est pas au mieux et Lyon est en pleine confiance.
Première victoire à l'extérieur.
Et pourquoi pas
Rabiot.
Avec Rabiot.
Je veux le reprendre.
Peut-être avec Rabiot. Mais De Zerbi, on lui fait confiance quand même. C'est un bon entraîneur. Il est en capacité de mettre quelque chose sur pied.
Bon, eh bien, on verra ça dès la semaine prochaine. On verra si vos pronostics se sont avérés justes. On va continuer avec du tennis avec vous, Sébastien Malouini. C'était les premiers coups de raquette cette nuit et ce matin et en début d'après-midi même de l'US Open à New York. Dernière levée du Grand Chelem de la saison. Avant de commencer à parler du tournoi lui-même, on va parler du double mix à 1 million de dollars. Le fameux double mix qui a fait extrêmement polémique. Donc si je relate un petit peu les faits, le double mix est habituellement un peu réservé aux habitués du double. On voit aucun joueur de simple pratiquer cette épreuve de double mixte. C'est pour un certain nombre de joueurs la rémunération de l'année, une partie de la rémunération de l'année aussi, il faut le dire. Et cette année, l'US Open avait décidé d'organiser quelque chose d'assez médiatique. En faisant appel à des joueurs de simple aussi bien du classement masculin que du classement féminin et en les associant pour faire quelque chose de très médiatique.
Marketing,
complètement marketing.
À l'américaine.
Avec notamment des équipes composées de Carlos Alcaraz et Emma Raducanu, de Iga Swiatek avec Casper Ruud, de Gaël Monfils avec Osaka, de Pegula avec Draper, de Rybakina et Fritz.
Et que des beaux noms, même Venus est revenu jouer. Il y avait, je pense que c'était un gros truc marketing et comme tu le disais bien, ce qui est bien dommage, c'est que malheureusement, dans le tennis, il y a des spécialistes de double. Et eux, ils jouent mieux que ces gens-là, en plus, parce que c'est des spécialistes.
Et au-delà de jouer mieux, c'est vraiment
un
tournoi du Grand Chelem. Ouais. C'est vraiment une rentrée importante financière dans l'année.
Surtout qu'd'habitude, en mixte, on ne gagne pas autant.
Voilà, donc d'habitude, le fin mot de l'histoire, c'est que c'est Andrea Vavassori et Sarah Errani qui étaient tenants du titre, donc qui avaient gagné l'an dernier l'US Open, qui ont de nouveau gagné. L'année dernière, en gagnant le tournoi, ils avaient gagné 200 000 dollars.
Et là, ils ont gagné 1 million.
200 000 dollars. Et cette année, ils ont gagné 1 million de dollars.
Voilà. Ah oui, et puis il faut dire que les finalistes, donc Ruud et Swiatek, c'est pas des grands joueurs de double. Et en plus, la formule était sur 4 jeux. Sur 4 jeux. 2-7, 2-4 jeux. À part la finale. Mais donc, je pense que le spectacle n'était pas très, on va dire, double.
Mais les tribunes étaient pleines.
Ben oui, parce qu'il n'y avait que des stars et les gens ne viennent. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il n'y a plus trop de passionnés de tennis, mais de passionnés d'événements. Les gens viennent pour l'événement, mais ce n'est pas du double qu'ils ont dû voir.
Voilà, puisque y a une image assez flagrante qui a circulé sur Internet avec le stade lors de la finale du double de l'an dernier, du double mix de l'an dernier.
Oui, c'était vide.
Et en plus,
généralement, elle est vide. Ouais.
Le Arthur Ashe est quand même le plus grand cours central du monde, donc ça se voit quand il est à moitié plein ou à moitié vide. Et là, cette année, il était plein à craquer.
Parce que c'est vrai qu'en double mix comme en double homme, généralement, ce n'est pas des gens connus qui gagnent. Et c'est plutôt les seconds couteaux. Ils sont plutôt dans les 100 meilleurs mondiaux en simple, voire beaucoup plus loin.
Certains ne jouent même plus en simple.
Oui, mais ils arrivent à... le double, c'est autre chose que le simple. Et là, j'ai vu quelques équipes, à mon avis, ça devait être plus être bûcheron que volleyeur.
Ah, c'est sûr que ce n'était pas le jeu de double habituel.
Non.
Allez, on va refermer la parenthèse et on va parler des tournois de simple. On va commencer par les messieurs avec deux favoris.
Alors moi, j'en mettrai trois. Alors il y a deux favoris, évidemment.
Alcaraz, Sinner.
Ouais, mais je mettrai Shelton. Alors je ne sais pas pourquoi, il a fait les bons Master 1000 avant, mais c'est un jeune, il est chez lui, pourquoi pas.
Il gagne à Toronto, le Master 1000 de Toronto.
Ouais, mais c'est sur une semaine, donc après, sur 15 jours, à chaque fois, il flanche un peu. Donc là, on va voir, peut-être chez lui, il va profiter de créer la surprise, mais bon, ça va être compliqué avec les deux.
Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il aura le public avec lui.
Ah oui, oui. Après, Sinner était malade au dernier Master, donc j'espère qu'il s'est bien remis. Parce que les premiers tours vont être un peu compliqués.
Alors, dans les outsiders, j'allais vous proposer Shelton, Fritz et Zverev. On a basculé, ouais, Shelton dans les favoris, donc il reste Fritz, Zverev. Vous en voulez d'autres ?
Non, parce qu'on voit les autres têtes de série, ils font rien. Medvedev, là, qui était le match à voir aujourd'hui contre Bonzi, on l'avait vu au début parce qu'il l'avait battu à Wimbledon. Là, Bonzi peut gagner en 3-7, il y a 2-3 faits de jeu.
Très gros fait de jeu, surtout cet après-midi, oui.
Il se fait enrouler, il va jusqu'au cinquième, il gagne quand même, mais bon, je pense qu'il a laissé des plumes, c'est bien dommage.
Alors son futur adversaire, Giron, a joué 5-7 aussi,
donc ça va.
Ça va équilibrer les choses.
Oui, parce que là, 5-7 sur dur, c'est pas 5-7 sur terre ou gazon, hein. C'est quand même beaucoup plus solide. Mais les Français, on va en parler un peu, parce qu'au début, on avait dit que tous les Français allaient perdre au premier tour, parce qu'ils ont eu un mauvais tirage. Mais ils s'en sortent. Là, on voit Manarino qui a mis 3 petits sets à la tête de série numéro 29.
T'es le talent de Greg Spoor, le néerlandais.
Alors, voilà, je vais te laisser dire le nom parce que j'arrive pas. Et on a aussi...
Rinderknecht est passé aussi.
Rinderknecht qui passe en 4-7. On a eu le petit jeune aussi qui passe. Et là, demain, je pense qu'Humber devrait passer. Après, le reste, ça va être...
Alors, Moutet a perdu cet après-midi contre Thompson.
Et on a...
On a encore Gaël Monfils.
Donc Hugo Gaston qui va jouer contre le vainqueur de l'ATP.
Exactement.
Du Hugo Challenger
Gaston
de Nouméa.
Qui va jouer Shintaro Mochizuki.
Je te laisse aussi dire le nom.
dont on peut signaler Mochizuki qu'il est sorti des qualifs des 3 des 4 tournois du Grand Chelem cette année. Il y a qu'en Australie où il n'est pas sorti.
Bah, il venait de gagner ici.
À Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open, il est sorti des 3 tours de qualifs.
Mmh. Ouais, c'est bien. Là, il est 110 mondial. Voilà, c'est vraiment son niveau, je pense. Il peut accrocher. Encore, l'US Open, c'est un peu plus compliqué parce que je crois que ils prennent que les 80 meilleurs mondiaux.
C'est ça, puisque Arthur Cazaux, qui était 88e, n'était pas qualifié direct.
Et c'est un classement antérieur. Parce qu'on voit Atam, Atman, qui a fait un super Master 1000 qui perd en finale.
En demi.
Il est 67 mondial, il aurait dû être tableau, mais non, il est.
Le classement était établi avant. On a aussi Muller qui va jouer Tsitsipas. Donc on est assez confiant au vu des dernières perfs de Tsitsipas et de la régularité de Muller.
Ah oui, parce que là Tsitsipas en ce moment il fait rien, mais bon après ces champions là, il suffit qu'ils se réveillent là. Mais pour Tsitsipas c'est quand même un premier tour compliqué.
C'est comme Medvedev, il est vraiment dans une mauvaise passe.
Ah bah oui, là il a changé de chaussures deux fois, il a loupé des matchs que même un quatrième série ne louperait pas. Donc c'est qu'il n'est pas très bien dans sa tête. On sait qu'il vient d'avoir un deuxième enfant, donc ce que peut-être, voilà, c'est lui qui doit faire les nuits, je ne sais pas, mais... mais en tout cas, il n'est pas bien.
On va passer chez les dames. Trois favorites ?
Ah oui.
Sabalenka, Swiatek et Goff, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui. Je ne vois pas... Et encore, Swiatek...
Alors Swiatek vient quand même de gagner le Masters 1000 de Cincinnati.
C'est ce qui l'a refait remettre un peu dedans, parce qu'elle n'était pas bien depuis le début de l'année, mais bon, pourquoi pas, voilà.
Après son titre à Wimbledon quand même, donc il y a un mieux.
Oui, il y a un mieux, mais bon, à Wimbledon, il y a eu beaucoup de choses, de faits de jeu qui ont fait qu'elle s'en est bien sortie, mais Sabalenka, je la vois bien, surtout qu'elle a fait deux mauvais tournois, là, donc peut-être... On verra, mais après, sur 15 jours, voilà.
Dans les outsiders, on peut mettre Elina Svitolina, Jasmine Paolini, Elina Rybakina.
Il y en a plein.
Pegula, c'est fou. Navarro.
Ouais, comparé au masculin, elles sont toutes dans un mouchoir de poche, après les favorites. C'est vrai qu'après, ça va être le commencer dans tout sport, hein, le moment, si elles sont en forme. Et l'US Open, on sait aussi si elles sont concentrées, parce qu'il y a du bruit énorme. Il y a les restaurants en haut, c'est vraiment... C'est un peu folklore.
Alors c'est un des seuls endroits au monde où effectivement l'arbitre ne demande pas le silence parce que ça ne sert à rien, c'est pire avant qu'après. Donc voilà.
Il faut être bien concentré.
Il faut s'habituer à jouer avec du bruit. Si on parle des Françaises, on va parler de Loïse Boisson qui va jouer la Suissesse Golubic.
Oui, alors on va voir ce qu'elle fait parce que tous ses bons résultats, elle les a fait sur terre. Donc là on va voir sur dur. Bon après physiquement elle est prête. J'ai vu qu'elle s'était séparée de son entraîneur. Donc à voir, parce que les autres Françaises, je pense que ça va être très très compliqué.
Elsa Jacquemot va jouer Bouskova, Léolia Jean-Jean va jouer On, une Australienne, Diane Paris va jouer Kvitova, et Caroline Garcia va faire ses adieux, c'est son dernier tournoi, et elle va jouer Rakimova au premier tour.
Ouais, ça, de toute façon, Caroline Garcia, elle ne gagnait aucun match, c'est dur ce que je vais dire, mais c'était vraiment son bâton de maréchal sur cette année, parce que je pense qu'elle en a marre. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été dans les 10 meilleurs mondiaux.
Elle a été numéro 4 mondial.
Et elle perd contre des filles qu'elle n'aurait jamais perdre. Quoi.
Voilà. Mais bon, je pense que là... Elle a décidé d'aller jusqu'à l'US Open. Ouais, voilà. Donc,
le trop-plein est passé.
Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt dans les 15 jours qui arrivent. Et on va voir si vos pronostics se sont, à vous aussi, avérés bons.
J'espère. Ma petite pièce.
Eh bien, on se retrouve tout de suite après une page de pub.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
RRB, la pub.
Écoute, il y a un jeu avec les Team Tam jusqu'au 31 août. Tu scannes le petit code dans le magasin, tu joues au mini-jeu, faut retrouver la balle sous un des trois gobelets, et si tu gagnes, t'es inscrit direct au tirage au sort. Chaque lundi, il y a un gagnant. Il y a des lots fins valables à gagner. Switch, télé, trottinette et même une voiturette. Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Ce sont les soldes chez Jardiland. Du 30 août au 28 septembre, transformez des petits prix en grand plaisir. Alors profitez-en pour aménager et décorer votre extérieur ou encore prendre soin de vos animaux. Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Comment réduire mes impôts tout en relançant l'économie du pays? Tu le sais, toi?
Bien sûr. Fais appel à des professionnels pour réaliser des travaux sur ta maison et profite des nouvelles mesures fiscales accordées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Comment ça?
Maintenant, tous les travaux sont éligibles dès ta déclaration 2025. Intérieur ou extérieur, habitation principale ou secondaire, ancien ou récent, tous les travaux, sauf bien sûr l'entretien courant, les petites réparations, la déco.
Et c'est tout?
Attends, cerise sur le gâteau, le plafond des travaux déductibles passe à 15 millions étalés sur 3 ans dès 2025.
Ah bah ça, c'est un sacré coup de pouce.
Nouveau dispositif, travaux déductibles, réduisez vos impôts, relancez l'économie.
Liste des travaux éligibles sur dsf.gouv.nc.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Retrouvez tout de suite la suite de votre semaine formidable avec Olivier Ludin.
Eh bien, voilà, de retour dans ce formidable, on va parler des brèves de la semaine et on va commencer par de la MotoGP avec une nouvelle victoire de Marc Marquez. C'est la 7e consécutive, c'était le Grand Prix de Hongrie ce week-end. 7e victoire consécutive, Sébastien Malouini, c'est même plus de la domination à ce niveau-là.
Ah non, mais là, ils peuvent lui donner la coupe maintenant. Hein. Ils peuvent faire un avançant. C'est vrai qu'en plus, ils gagnent le petit circuit et le.
C'est ça, ils gagnent la course sprint du samedi
et le
Grand Prix.
Et je crois que depuis le début, il n'en a loupé qu'une de petite course. Hein. Donc c'est vraiment. Alors je ne sais pas s'il a une moto au-dessus des autres ou pas, mais c'est quand même. À un moment, on pensait que son frère allait un petit peu le titiller. Bon, il le titille un peu, mais de loin.
Là, ça fait deux Grands Prix où effectivement, Alex Marquez, son frère, est beaucoup plus loin.
Ouais.
D'habitude, il faisait deuxième.
Oui, il y a eu la petite trêve là, et après la petite trêve, c'est vrai qu'il était un peu moins bien, mais bon, le pire, c'est pour nos deux Français qui étaient bien avant la trêve, et puis que là, ça chute, les motos sont pas au top.
Quartararo 10e et Zarco a abandonné.
Oui, il a chuté, il a fait une belle chute en plus. C'est un peu comme la Formule 1, ces motos, on se dit, bon après évidemment, c'est quand même le pilotage, mais je pense qu'il a une très bonne moto.
Ouais, mais il doit s'entraîner, il doit avoir un circuit dans sa chambre et il doit s'entraîner pendant son sommeil. Lui, c'est pas possible.
Alors, la moto, il est en pleine bourre, il lui arrive rien.
Enfin, la moto a quand même été conçue pour lui et autour de lui parce que Bagnaia, avec la même moto, qui est quand même champion du monde aussi l'année d'avant, il y a deux ans, n'arrive pas à accrocher ne serait-ce que le podium. Quoi.
Ah oui, mais là, on le voit quand il pilote.
On parle de la Ducati d'usine. Hein.
Ça glisse. La dernière fois, il a loupé son départ, mais il part en travers, mais il touche personne, il arrive à se retrouver. Donc, il a une bonne étoile en ce moment qui le suit. Et souvent, ceux qui font champion du monde, quand c'est un peu accroché, c'est ce qui fait un plus. Quoi.
Donc cette victoire, il l'a eue ce week-end devant Pedro Acosta sur KTM, qui fait de bons résultats depuis justement l'après-trêve. Marco Bezzecchi aussi sur Aprilia. Et puis Jorge Martin.
Voilà, on va parler. Ouais. Jorge Martin qui revient un peu. Donc,
voilà, le champion du monde en titre. Qui donc, a été blessé en début de saison beaucoup. Qui revient là petit à petit.
Ouais, lui il est pareil. Hein, l'année où il a été champion du monde, il était quand même assez... assez impressionnant.
Mais il l'a joué sur la régularité et pas sur le nombre de victoires en Grand Prix.
Quand il gagnait, par contre, il gagnait de loin. Donc, pour moi, le championnat, il est plié. Mais comme les nouveaux arrivent derrière, ça peut être sympa.
Donc, au championnat du monde, on se retrouve avec Marc Marquez qui accroît encore son avance. Il a désormais 175 points d'avance sur son frère Alex qui a fait 14e sur ce Grand Prix. Et il ne reste que 8 Grands Prix.
Ah oui, non, ils peuvent déjà faire la remise des prix s'ils ont gagné du temps.
Il y a de fortes chances que, sauf accident, quand même, il arrive à récupérer de nouveau un titre de champion.
Oui. Après, c'est vrai que derrière, ça va bien se bagarrer pour la deuxième et la troisième place, parce qu'ils sont pas beaucoup. Là, on voit que le frère, il est pas bien et que Martin revient, donc ça peut ramener des points. Mais en haut du classement,
c'est... Il perd encore une course, il est quand même champion.
Alors non, parce qu'il y a quand même pas mal de points distribués sur un week-end.
Avec la petite course et la grande course.
En tout, 10 points sur la course sprint et 25 points sur le Grand Prix. Donc mathématiquement, non, il ne l'est pas encore. D'accord. Mais effectivement, il faudrait qu'il y ait un gros accident.
Qu'il tombe à tous les grands Prix.
Et que ce soit le même coureur après qui gagne. Pour venir passer devant, mais effectivement, parce que là, je parle que du deuxième qui est Alex Marquez, mais le troisième est très très loin au championnat du monde. Donc en gros, ça sera Marquez, quoi. Reste à savoir si ce sera Marc ou Alex, mais il y a peu de probabilité que ce soit un autre pilote. On va passer au cyclisme, messieurs. C'était le début de la Vuelta, c'était la deuxième étape, et Vingegaard est déjà devant. Quelqu'un veut prendre la main sur cette info ? Vingegaard qui a gagné la deuxième étape et qui a déjà endossé le maillot rouge de leader, qui est un des rares coureurs à enchaîner Tour de France et Vuelta.
C'est ce que j'allais dire, je ne sais pas comment ils font.
C'est à la suite de l'excellent Tour de France, hein, malgré qu'il a trouvé un maître lors du Tour de France, mais je crois que c'est dans la continuité. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est toujours un peu les mêmes qu'on voit aux avant-postes. Et puis là, comme c'est le Tour... C'est un tour où c'est très montagnier également, donc c'est peut-être quelqu'un qui va faire la différence.
C'est ça, mais surtout donc son grand rival, Pogacar, n'est pas là.
Surtout que son grand rival est absent, donc je pense que c'est peut-être l'occasion pour lui pour sauver la saison, comme on dit, puisqu'il avait misé de grandes espérances sur Tour de France. Donc.
Ce qui est étonnant, c'est d'enchaîner ces deux tours. Enfin, on dit enchaîné, mais il n'y a qu'à peine un mois qui s'est écoulé entre la fin du Tour de France et le début de la Vuelta. C'est quand même deux gros tours. Il va au bout du Tour de France. Il faut repartir pour 3 semaines de course. Quand même des efforts répétés qui sont bien préparés. Difficiles.
Ils sont bien préparés, je pense.
Tu as entendu ce qu'il s'est dit dernièrement avec Indurain, qui a avoué qu'il s'était plus ou moins dopé avec, comment s'appelle l'autre là, qui avait gagné le Tour de France là, qui a avoué, hein. Il a avoué avoir pris des produits. Donc, on va pas enfoncer les cyclistes, mais reproduire deux Tours de France comme cela...
De grands tours.
Je dis qu'ils ont une sacrée préparation. Non, mais sincèrement, en voiture, tu l'as déjà fait, toi, monter là T'es en seconde. Ni sur la Vuelta, ni sur le Tour de France, t'es en seconde. Les mecs, ils montent là comme s'ils étaient avec une trottinette, quoi. Non, c'est incroyable. Tant mieux s'il arrive à faire la Volta. Et là, il a pas Pogacar avec lui. Je pense qu'il a de grandes chances. Mais les Espagnols chez eux, faut se méfier quand même.
Ah, il y a toujours un coureur espagnol.
Les Espagnols chez eux, faut se méfier.
Haut, effectivement. On va suivre ça aussi pendant 3 semaines avec beaucoup d'intérêt et voir si Vingegaard va au bout et gagne un grand tour cette année. Messieurs, c'est presque la fin de cette émission. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de griffe. Sébastien Baldovini, on va commencer par vous.
Ah, allez, pour moi, je vais mettre mon coup de cœur à notre nageur Ethan Dumesnil, qui revient des championnats du monde de natation avec Maxime Grousset, qui est un peu, c'est vrai, dans l'ombre de Maxime Grousset. Mais c'est un petit jeune, ça fait 4 ans qu'il est à l'INSEP, là il part sur l'Amérique et c'est très bien parce que c'est notre relève et puis bon, on n'en parle pas assez, donc... j'en parle.
Et ben voilà, c'est chose faite. François-Louis-Marie, votre coup de cœur de cette semaine ?
Ben moi, j'avais deux coups de cœur. J'avais déjà Félicé, qui était champion de France, là, lanceur de javelot. Très bien, hein, être champion de France en s'entraînant en Nouvelle-Calédonie, il faut quand même mettre ça en avant. Et puis le deuxième coup de cœur, c'est le foot avec Giroud, 38 ans. C'était pas mon joueur, mais respect, il continue à marquer. Dans chaque club, il passe, il fait pas l'unanimité, mais il marque. Tout à l'heure, Didier Deschamps, on va le rappeler, hein, c'est sûr.
Il y a une Coupe du Monde à la fin de la saison.
Exactement, voilà pourquoi.
Pierre Forest, votre coup de cœur de cette semaine ?
Alors, un petit coup de cœur et un petit coup de griffe. Coup de cœur pour l'équipe des U16, hein, je crois, de Nokagou, les footballeurs qui ont réalisé une performance en faisant match nul. Hein. On avait l'habitude qu'ils prennent des tolls quand ils rencontraient les Néerlandais, quelle que soit la catégorie. Mais là, c'est un très bon match nul. C'est un match nul même très positif. Donc, c'est le coup de cœur. Et puis, un petit coup de griffe. Sébastien a parlé un petit peu d'Étan Duménil. Moi, je parlerai de Maxime Grousset, qui est en vacances encore sur le territoire. Il me semble, hein, il est encore là. Il était venu se reposer. Petit coup de griffe, parce que je crois qu'on ne l'a pas mis en avant, l'ensemble des collectivités, et notamment le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui est quand même compétent en matière de sport. Pour une fois qu'on a un sportif qui revient, qui est titré, qui a deux titres de champion du monde en natation, s'il vous plaît, c'est une discipline la plus exigeante possible, qu'on n'ait pas fait au moins en dehors de la remise qui a été faite en catimini au sein du mouvement sportif olympique. Je trouve qu'on a oublié un petit peu qu'il y a des jeunes qui réussissent. On parle beaucoup des jeunes qui font des bêtises, etc. Mais là, il y a un jeune, un grand jeune, qui s'est sacrifié pour le sport qu'il aime, et on sait que la natation, c'est un sport très, très difficile, etc. Deux titres de champion du monde, je crois que ça valait quand même que l'ensemble des collectivités, notamment celles compétentes en matière de sport, organisent quelque chose qui soit à la hauteur de...
Qu'on le mette un peu plus en avant, on parle quand même de titres de champion du monde.
Bien sûr, à la hauteur de l'événement, voilà.
Moi, je reviens sur ce que tu dis, c'est peut-être pour collectivités maintenant de travailler avec les jeunes pour que plus tard, quand ces jeunes-là soient vraiment sur le toit du monde, ils puissent... vraiment faire un retour sur ces collectivités-là. Mais si les collectivités ne le
devenir
travaillent pas
avant... Devenir des
ambassadeurs. Ben oui, s'ils ne travaillent pas avant, et peut-être c'est ce qu'ils ont fait avec Maxime, ils ne l'ont peut-être pas aidé. Après, quand vous revenez, vous n'avez pas trop envie de faire d'efforts.
Bon. Ben voilà. Donc, c'était votre coup de griffe, Pierre, de cette semaine. Ben, merci messieurs à tous les trois d'avoir été avec moi cette semaine, et on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle semaine formidable.